Ce soir n'est pas un soir comme les autres. Ce soir, nous sortons de Radio Courtoisie. Ce soir, nous déambulons dans les couloirs du métro. Nous nous dirigeons vers un lieu qui nous ouvre ses portes et pas n'importe quelle porte. Exceptionnelles par leurs dimensions qui les rendent plus grandes que la porte de bronze de Saint-Pierre de Rome, une fonte extrêmement savante, elles peuvent défier le temps à l'image des bronzes antiques, du bronze nu, sans artifice. Sculpté par le baron Henri de Tricatie en 1841, un livre d'images de l'Ancien Testament pour arriver jusqu'à cet endroit qui est notre chez-nous ce soir. Il faut affronter le chaos urbain et une fois arrivé, c'est l'histoire avec un grand H qui s'affiche comme une avalanche de printemps. Le chaos devient silence, les temples romains s'harmonisent à nos monuments chrétiens. C'est alors une allure inégalée, un prénom à jamais gravé, Marie-Madeleine, la Madeleine. Une œuvre à contempler, une œuvre à comprendre, mais aussi à écouter car la pierre parle et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Monseigneur Chauvet, curé de l'église de la Madeleine. Vous allez l'entendre ce soir dans cette soirée musicale nous parler de son église, la Madeleine, mais pas seulement. Vous allez également entendre Michel Geoffroy, titulaire de l'orgue de chœur de la Madeleine, et puis vous allez entendre également Eric de Radio Courtoisie. Et c'est à lui que nous devons cette série. Nous devons cette série à de belles rencontres, des moments intimes, des moments de partage, et c'est tellement rare. Nous vous les offrons ce soir. J'espère que dans cette soirée, vous trouverez du réconfort. Nous venons d'écouter Marie-Madeleine au pied du Christ d'Antonio Caldara, composé en 1698, interprété ici par le contre-ténor Damien Guillon et l'ensemble Le Banquet Céleste. Le Banquet Céleste, fondé en 2009 par Damien Guillon, est un ensemble de musique sur instruments d'époque. En résidence à l'Opéra de Rennes, Le Banquet Céleste poursuit son exploration de la musique baroque européenne. C'est une musique d'ouverture pour cette soirée. J'aime le titre, j'aime la voix de ce contre-ténor. et je voulais vous parler d'elle, vous parler de Marie-Madeleine. Elle est cette pureté de marbre que l'on voit de loin à l'entrée de la Madeleine. Elle est cette figure féminine courageuse, repentie, et comme si elle avait parcouru les siècles, elle nous invite à traverser la nef. 60 mètres nous séparent d'elle, 60 mètres qui représentent des siècles. Magnifique, en marbre, elle est enlevée au ciel par des anges, vêtue de sa robe de bure, emportée sur sa paillasse de pénitence par trois anges. Une sculpture se développe dans l'espace d'une manière complexe, avec plusieurs plans et des jeux d'entrecroisement. Un mouvement ascensionnel de la sainte avec grâce, dans une composition d'une rare virtuosité. Le ravissement de Sainte Marie-Madeleine, sculpté par Marocchetti en 1843. Il est question de Marie-Madeleine, et cette Marie-Madeleine est un ravissement. Nous venons d'écouter Marie-Madeleine au pied du Christ, deuxième partie d'Antonio Caldara, interprétée par l'ensemble Le Banquet Céleste et la soprano Emmanuelle de Negri. Et si je devais donner une voix à Marie-Madeleine, ce serait celle-ci. Vous parlez de ce marbre avant de vous faire écouter Monseigneur Chauvet, curé de l'église de la Madeleine, n'est pas anodin. Monseigneur Chauvet n'est pas seulement le curé de la Madeleine, il n'est pas seulement prélat, prédicateur, théologien catholique français, ancien recteur, archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Non, il est l'œil et l'oreille de la Madeleine. Il y a le marbre et il y a la pierre. Monseigneur Chauvet a fait renaître le fronton de l'église, ce fronton sculpté par Henri Lemaire en 1789. Il est restauré en mai 2024. Monseigneur Chauvet le met à l'honneur, l'observe et nous le raconte dans un livre, Le Jugement Dernier, Madeleine, avec des photographies d'Eric Sander. C'est un livre qui nous appelle à nous sortir du chaos urbain, à lever la tête, nous arrêter, nous questionner. Nous pouvons, avant d'entrer dans la Madeleine, ne pas ignorer ce qui se passe au-dessus de notre tête. Monseigneur Chauvet n'a pas seulement voulu nous montrer ce qu'est ce fronton, mais il a ramené à notre pauvre niveau terrestre, le jugement dernier. Il nous apporte à travers ce livre des gros plans du jugement dernier. Et est-ce que ce livre est un cri pour que les hommes lèvent les yeux plus haut et redécouvrent, s'interrogent et se rallient à la grandeur théologique? Ou est-ce que Monseigneur Chauvet a capturé la beauté de peur qu'elle ne nous échappe? C'est le sentiment du sublime qui nous fait paraître petits. Est-ce que les hommes sont devenus si petits pour que nous ayons besoin de leur montrer de plus près une telle beauté? Ou est-ce une manière de ramener le divin vers nous? Monseigneur Chauvet nous plonge au milieu de cette scène. Nous sommes le réceptacle des regards, nous pouvons sentir la chaleur de la pierre. Nous sommes avec la pierre parce que nous sommes si proches et c'est comme si la pierre devenait humaine. Je cite. Le sauveur du monde au milieu du fronton, à sa gauche est Madeleine, recevant le pardon de ses fautes. À la gauche du Christ, l'ange des vengeances, armé du glaive, repousse de la main et épouvante par son regard les vices. À la droite du Christ, l'ange de la miséricorde. La figure du Christ est dans un excellent style d'ajustement, le regard est imposant. Madeleine est agenouillée à ses pieds, derrière elle. La place de la Concorde, juste en face, le palais Bourbon, à l'intérieur de la Madeleine, un marbre indestructible, les paumes de main tournées vers le palais Bourbon et comme un message, l'abattement que laissent le remords et le repentir unis à l'espérance. Malraux disait que la photographie permet de comprendre les œuvres et de faire voir l'invisible. C'est ce que nous offre Monseigneur Chauvet avec son dernier livre, Le Jugement Dernier, Madeleine, avec des photographies d'Eric Sander. Écoutons Monseigneur Chauvet. Nous sommes le 12 février 2026. Nous sommes avec Eric de Radio Courtoisie. Nous sommes à la paroisse de la Madeleine dans le 8e arrondissement de Paris. Merci de nous recevoir, Monseigneur Chauvet. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
J'ai une première question un peu excentrique, je vais dire. Vous croyez en Dieu ?
Oui, je crois en Dieu. Je crois même que j'ai bientôt 75. Je n'ai jamais douté de l'existence de Dieu. Jamais. Il y en a qui traversent des crises de foi. Non pas le foie, ceux qui mangent trop de chocolat, mais la crise de foi. C'est-à-dire, je crois, jamais. Je me suis dit, Dieu n'existe pas. Ça veut dire, je crois qu'il fait partie de mon être, parce que je suis créé, comme tout autre, à l'image de Dieu.
La première fois que je vous ai vu, vous étiez dans l'église de la Madeleine, j'avais l'impression que vous étiez une cheminée, c'est-à-dire que les gens se pressaient délicatement autour de vous, comme pour trouver un certain réconfort et une certaine sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est peut-être le propre du prêtre. Il est là pour consoler. Et c'est vrai qu'à la Madeleine, je reçois beaucoup de gens qui traversent des épreuves et qui ont besoin d'une parole d'espérance. Je suis là aussi pour redonner un peu sens. Je pense à tous mes catéchumènes qui viennent, tous ces jeunes, et je leur pose toujours la question, mais pourquoi vous venez là, à la Madeleine, pourquoi vous demandez le baptême aujourd'hui? En recherche de sens. Ça veut dire que notre monde, aujourd'hui, on a perdu un peu, d'abord tous les points de repère, mais aussi le sens. On ne sait plus pourquoi nous sommes là, pourquoi on vit. Et donc, le curé de la Madeleine, il est là pour dire, attends, la vie a un sens. Même si ce n'est pas extraordinaire, il n'empêche que c'est le Seigneur qui te conduit, et il va te conduire là où il veut, et où tu diras oui.
Vous avez beaucoup travaillé pour la radio, vous avez beaucoup utilisé votre voix. Vous peignez, comme on dit, des images avec votre voix et vos paroles. Vous venez de sortir un livre sur la Madeleine avec des images, des photographies. Qu'est-ce qui est le plus difficile à faire? Est-ce que c'est plus difficile de mettre des mots sur des images invisibles ou de mettre des mots sur la pierre?
J'aime bien mettre des mots sur l'invisible. Parce que on veut toujours voir. Les gens veulent voir. On veut voir Dieu. Quand j'étais petit, je demandais toujours aux aumôniers que j'avais, hein, mais pourquoi je ne vois pas Dieu? Et donc les gens aujourd'hui veulent voir. Et c'est quand même à travers l'invisible qu'on voit le Seigneur. Vous savez, c'est presque un paradoxe. C'est-à-dire que Dieu parle dans le silence. Vous évoquez le nombre de radios que j'ai pu faire, j'en ai fait beaucoup, c'est vrai. Et un jour, c'était France Culture. Et donc, j'aurais dit, les pierres parlent. Et la journaliste a dit, ça, je ne le crois pas. Et donc, je l'ai invité à Notre-Dame. C'était à 7h30 du matin, il n'y avait pas de bruit, personne. Et je lui ai dit, maintenant, on va écouter. Les pierres parlent. Elle a dû me prendre pour un cinglé, remarquez. Hein. Mais il n'empêche que son micro était près des pierres. Et dans ce grand silence de la cathédrale, il y a comme des voix qui arrivent, une présence. Et la présence de Dieu, à travers toutes ces pierres, toute l'histoire, cette présence de Dieu, elle parle. Et elle parle de manière, pas avec des sons, comme nous, nous parlons, mais cette présence, un poids, vous savez, un poids, comme la gloire de Dieu a un poids, et donc il est là. Et souvent je mets « il est là » avec un grand « i ». Il est là, Dieu est là. Par son silence, ce silence devient parole. Pour ça, il faut faire silence aussi. Car si vous parlez beaucoup, naturellement, il ne peut pas en placer une. Mais si vous voulez que Dieu en place une, eh bien, il faut savoir se taire. Et quand on se tait, on entend.
Vous parlez de l'invisible. Est-ce que vous pensez, après, avec toute votre expérience, vous avez beaucoup pris la parole, transmis une parole, est-ce que celle-ci vous semble à l'heure actuelle vaine? Est-ce que vous préférez faire parler la pierre que les mots?
Non, je préfère faire parler les mots. Dieu merci. D'abord, je suis un littéraire, donc je vais quand même faire parler des beaux textes. J'aime Bernanos, j'aime Hugo, j'aime Proust, j'aime Racine. Non, j'ai enseigné toute la littérature française, et donc j'aime les mots, les faire sonner. Hein. Comme l'orgue fait sonner, eh bien les mots sonnent. La prédication, voilà, il faut la préparer pour que la parole puisse toucher les cœurs. Ça ne doit pas être une parole pour moi intellectuelle, ça doit être une parole qui sort, qui jaillit, mais elle est, j'allais dire, contrôlée. Elle est contrôlée, la parole. Et donc, elle jaillit pour toucher les cœurs. Je dis souvent, le curé d'Ars, il copiait des homélies, parce que c'était l'époque où il y avait même des livres d'homélies, et donc il copiait les homélies, il touchait personne. Et quand il s'est mis à parler avec son cœur, eh bien, il a rempli sa petite église d'Ars, qui était toute petite, certes, mais enfin, il a rencontré, on dit, 100 000 personnes tout au long de son ministère à Ars. Ça veut dire que la parole touche les cœurs. Mais il faut, pour cela, intérioriser la parole. Vous voyez, parce qu'il y en a qui parlent, mais c'est de la logomachie, c'est la logorée, une sorte de diarrhée verbale où, j'allais dire, ça ne touche rien, on retient rien. Donc il faut que la parole touche. Et elle est, comme dit l'Écriture, elle est un glaive. Et le glaive transperce le cœur, non pas pour le tuer, mais pour écarter, créer un peu une blessure, pour que le cœur puisse entendre quelque chose qui vient non pas du curé de la Madeleine, mais qui vient de Dieu.
Dans cette parole, dans votre nouveau livre, j'en reviens à l'invisible. Il y a beaucoup de détails sur les regards et on a comme l'impression que ce sont les regards qui nous parlent. Est-ce que vous avez voulu mettre une parole dans ces regards ?
Oh que oui ! Parce que dans l'Évangile, il n'y a que des regards. Parce que Jésus est regard. C'est un regard qui perce naturellement la personnalité de l'autre. Vous savez, quand il appelle ses disciples, Jésus les regarde. Et il leur pose tout de suite cette question, « Que cherchez-vous ? » Et les disciples disent, « Où demeures-tu ? Venez et voyez. » Il n'a pas d'adresse, naturellement, il n'a pas de lieu où reposer. Donc il n'a pas d'adresse, mais voyez, regardez-moi. Non pas parce que je suis le plus beau, regardez-moi parce que je suis l'icône du Père. Dans Nicodème, c'est pareil. Il le regarde. La Samaritaine, elle le regarde. Et donc, cette femme est d'ailleurs touchée par ce regard. C'est pas n'importe quel regard. Allons un peu avant, à la crèche. Les bergers, ils connaissent rien. Hein, et ils sont avec leurs moutons, ils arrivent à la crèche. Ils rendent gloire, parce qu'ils ont regardé ce bébé, Siméon, le vieillard Siméon, dans le temple. Je dis, quand le Christ est venu avec papa et maman, tous les trois n'avaient pas d'auréole. Or, le temple, il y a beaucoup de monde. Et comment se fait-il que Siméon, en voyant ce couple, reconnaît en cet enfant le Fils de Dieu? Regard intérieur, les mages. Regardez les mages. Ils voient, c'est un bout de chou qu'ils rencontrent. Ils se mettent à genoux. Et puis ma question, c'est Pilate. Il l'a regardé aussi, il était tout proche. Il n'a rien vu. Un visage fermé. Le visage du Christ, il ne regarde pas l'apparence. Il regarde la profondeur de l'être. Et donc pour moi, celui qui a fait tous ces visages, surtout la profondeur du regard et des yeux, je veux dire, voilà, il a voulu, même si c'est très haut, hein, sur la frise en haut, c'est pour ça que j'ai voulu faire ces photos un peu de près, pour se rendre compte de la profondeur du regard. À la fois, vous savez, il y a d'un côté les bienheureux, voilà, puisque c'est le jugement dernier, de l'autre côté, il y a les maudits. Et Marie-Madeleine s'est mise du côté des maudits. Non pas parce qu'elle est maudite, mais parce qu'elle veut tirer vers le bien, même ses maudits. Voilà, parce qu'il n'y a que de l'amour. Et donc, elle a ce regard, elle supplie le Seigneur à travers ce regard. Il n'y a pas de parole, c'est le regard qui parle.
Donc vous nous amenez le jugement dernier en détail, en précision. Vous n'avez pas peur de briser le mystère et de justement de un peu faire en sorte que la transcendance n'ait plus le même sens. C'est la beauté, elle est presque inatteignable, elle est au-dessus de notre tête quand on passe sous le fronton de la Madeleine. Est-ce que vous ramenez ce jugement dernier avec des détails et avec puissance, je veux dire, à notre niveau, est-ce qu'il y a une part de...
Alors, naturellement, puisque pour parler du jugement dernier, La première difficulté, c'est qu'il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Et donc, en tant qu'être humain, on ne peut pas le penser, puisque vous avez besoin du temps et de l'espace, deux catégories, pour penser. Donc, je vous jette dans le monde de l'invisible. Alors, dans l'Écriture, il y a quand même, en Matthieu, le jugement dernier est expliqué par le Christ. Hein. Il y aura les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. C'est ce qu'on appelle la justice distributive. On distribue. Voilà. Alors vous aurez toutes les médailles, et moi, c'est pas sûr. Mais il faut savoir de quel côté on sera. Voilà. Bien, ça ce qu'on appelle la justice distributive. Mais parce qu'on est à la Madeleine, je pense que la justice distributive, elle est englobée dans la justice salvatrice, ce qu'on appelle la justice du salut. C'est-à-dire que je ne peux même pas imaginer un seul instant qu'on puisse faire naître de la vengeance dans le cœur de Dieu. Et que jusqu'au bout, Dieu nous aimera et Dieu nous sauvera. Et donc il y aura le jugement dernier, la preuve, c'est qu'on le voit sur la Madeleine. Mais au-delà, il faudrait un autre fronton pour dire Dieu est amour. Et donc, je ne révèle rien, et n'ayez crainte, je ne suis jamais allé là-haut et je ne suis pas revenu. Donc, je ne peux pas vous dire si c'est ça, mais c'est à travers l'écriture et à travers le fruit de ma contemplation du mystère de Dieu. Qui peut faire naître dans le cœur de Dieu une quelconque vengeance? C'est impossible, puisque en Saint Jean, on me dit Dieu est amour. Il n'est qu'amour. Le propre de Dieu, c'est l'amour. Alors nous, c'est pour ça qu'on a une difficulté, c'est que nous sommes des êtres limités. Dieu, il est illimité. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Et donc, je pense qu'il faut que, pour bon nombre de fidèles, c'est pour moi un chemin, parce que je rencontre des gens hein, qui ont peur de Dieu, comme ils ont peur de la mort. Ce qui est normal, moi aussi j'ai un peu le trouillomètre à zéro. C'est jamais drôle de passer de l'autre côté de la barrière. Hein. Mais de se dire, quelle image avons-nous de Dieu? On a encore un fond de jansénisme. Et je vois quand même des malades, des gens qui sont en fin de vie. Hein, et il y a toujours, mon père, qu'est-ce que je vais payer quand j'arriverai là-haut? Mais je dis tout est gratuit. Qu'est-ce que vous allez payer? Tout est gratuit. Mais parce que vous ne vous rendez pas compte de tout ce que j'ai fait de mal. Et est-ce que vous avez oublié tout ce que vous avez fait de bien? Vous savez, la petite Thérèse de Lisieux, elle disait, nous arriverons là-haut, les mains vides. Et sa sœur disait, mais non, Thérèse, pas possible. Nous arriverons les mains pleines de tout ce qu'on a réussi. Mais non, ma petite sœur. Non, non. Mais enfin, Thérèse, ben, alors on arrivera avec tout ce qu'on a raté. Mais non, on arrivera les mains vides. C'est-à-dire que on s'offre à l'amour. Mais on a été un peu élevé comme ça. Voilà, quand on faisait le carême, eh bien, on faisait des petites croix pour tous les efforts, parce qu'il fallait marquer tous les efforts qu'on faisait. Voilà. Mais là, vous voyez, il y a une gratuité qu'il faut retrouver. Je pense que le fronton, quand je vois Marie-Madeleine qui tire vers le bien, je dis elle a tout compris, parce qu'elle a beaucoup aimé.
C'est un peu paradoxal avec l'emplacement de la Madeleine et puis ce quartier un peu consumériste.
C'est étonnant, oui. C'est étonnant que, à travers la rue du Faubourg Saint-Honoré, où il y a quand même effectivement pas beaucoup de commerçants d'aliments, on a beaucoup de tissus. Voilà, là, les tailleurs, les chaussures, les sacs, tout ça. On a l'Élysée en face, hein, tout ça c'est bien, mais il n'y a plus Hédiard, il n'y a plus Fauchon. Mais, et pourtant, au cœur de ce quartier, qui est superbe. Le fronton du jugement dernier est face au fronton de l'Assemblée nationale. Ils se répondent. Je me dis, heureusement que l'Église est au milieu du village.
Et à la fois, je trouve que c'est presque un acte artistique. Vous me parliez d'art tout à l'heure, mais je pense que c'est un acte artistique, ce que vous venez de faire avec votre livre.
Oui, c'est d'abord montrer que le beau est un chemin privilégié pour poser la question de Dieu. Et que le monde défigure le beau. Et c'est dommage. Le beau, c'est une idée déjà qui pose la question de Dieu. Et donc, quand vous êtes tout près de ces visages, vous n'êtes rien puisque vous êtes tout petit. Vous mettez votre main, c'est rien par rapport à la main de Dieu ou du Christ. On est écrasé et à la fois, grâce au visage, on n'est pas écrasé. On est comme attiré. On était sur l'échafaudage, j'avais encore l'échafaudage pour être proche de tous ces visages. Je me dis, j'ai pas eu peur de voir ces visages. J'ai été, oui, émerveillé de me dire, mais effectivement, quel travail. D'abord le travail de l'artiste. Et puis, voilà, comment ce visage, vous savez, c'est comme les icônes. Vous regardez une icône, vous la contemplez, vous dites c'est merveilleux. Et puis progressivement, vous priez devant une icône. Et le miracle de l'icône, c'est quand c'est l'icône qui vous regarde. Et bien là, c'est pareil. Vous vous regardez, écrasé un peu par la puissance de cette œuvre, et en même temps, il y a un moment où vous dites, mais mon Seigneur, c'est toi qui me regardes. Voilà, le Seigneur est là et nous regarde.
Vous humanisez la pierre, vous humanisez les icônes, vous avez peur de perdre peut-être encore une fois quelque chose?
Oh non, mais je pense que le Seigneur, à travers l'art, j'allais dire, veut, c'est un chemin pour nous dire quelque chose. Et donc, je veux vraiment privilégier tout ce qui est beau dans la Madeleine pour dire, mais voilà, il te dit quelque chose de lui. Et donc, non, je pense que ces pierres, c'est pas uniquement, comme on dirait, ah ben la Madeleine, c'est monumental et tout. Oui, c'est monumental. Et au départ, c'était même pas pour être une église. C'était un temple à la gloire des troupes impériales. Mais, voilà, le Seigneur s'est emparé de ça pour dire, tiens, dans ce quartier de Paris, il y a quelque chose à dire. Et peut-être que la chose à dire, c'est que à travers tout ce, oui, tous ces artifices qu'on voit, hein, il y a quelque chose d'essentiel. Ne passez pas à côté.
Et le temps et la patience, il a fallu 90 ans pour sculpter ce fronton.
Oui. Ah ben, naturellement, ça c'est une œuvre monumentale. Hein, mais Dieu, j'allais dire, travaille à travers des mains d'hommes.
Oui, on voit quelques mains d'ailleurs dans les photographies, elles sont importantes autant que le regard, je trouve.
Exactement. Ah ben la main, dans l'incarnation, dans le mystère de notre foi, la main, elle est importante. La main, c'est le premier geste au baptême pour... je mets la main sur la tête de l'enfant ou des catéchumènes pour leur donner la force de l'esprit. La main, c'est quand à l'Eucharistie, j'impose les mains sur le pain et le vin pour qu'ils deviennent corps et sang du Christ. La main... Voilà, elle est à la fois bien meilleure et elle peut être bien pire, parce qu'elle peut tuer, mais elle peut guérir.
Il y a une phrase que j'aimerais que vous m'expliquiez. L'abattement que laisse le remords et le repentir unis à l'espérance.
C'est en regardant un petit peu notre monde, en écoutant les gens, le thème l'année dernière de l'année sainte, c'était l'espérance. Et je pense que le monde manque d'espérance. Et qu'on commence à espérer, quand on n'a plus d'espérance. Ça, c'est un paradoxe peut-être. Mais saint Paul dit « espérer contre toute espérance ». C'est-à-dire que quand l'homme n'a plus rien, qu'il est au fond du trou, qu'il est écrasé par ses problèmes, par son péché, par le monde, se dire « est-ce qu'il y a quelqu'un qui va lui tendre une main pour sortir ?» Moi, je suis persuadé que seul Dieu, alors à travers quelqu'un peut-être, hein, mais Dieu agit aussi, hein, il a des intermédiaires, hein, mais que c'est seul, que Dieu seul peut le faire sortir et le remettre debout. Mais pour ça, il faut être passé par ce chemin. C'est un chemin difficile, mais je pense à la petite Thérèse, qui est pour moi une sainte que j'aime bien, mais la petite Thérèse, elle n'avait plus rien. La réputation de ses parents, son père était à moitié fou, pour dire totalement fou. Elle était très malade, elle ne pouvait plus respirer. Voilà, et elle entendait les sœurs en train déjà de répéter le Dies Irae pour ses obsèques. Vous voyez, donc il y a de quoi là, quand elle était à l'infirmerie, elle était toute seule, et donc là, elle n'avait plus rien, si ce n'est l'amour. Elle n'avait plus que l'amour et la confiance. Mais vous savez, l'espérance, ce n'est pas un acte héroïque. L'espérance, c'est plutôt d'accepter de se laisser écraser par le drame, par le monde. C'est ça l'espérance. Et on renaît de ça après. Parce que, sur le coup, on prend le coup. Mais après, voilà, on peut se reconstruire uniquement par l'espérance, c'est-à-dire la confiance, l'abandon. C'est ce qui lui restait à la petite Thérèse. Ce qui lui restait. Pas grand-chose. Hein. Et donc, pour moi, je pense que c'est le ministère du prêtre, c'est d'abord de dire à des gens qui sont écrasés, dire abandonne-toi, lâche prise. Parce qu'on ne veut pas lâcher prise. Tant qu'on ne lâche pas prise, on essaye de tenir. On commence à espérer quand on n'a plus rien. Vous savez, sauter quand il y a un filet du troisième étage, ce n'est pas compliqué. Il y a le filet, donc il va me reprendre. Sauter quand il n'y a plus de filet, ça c'est autre chose. Alors, il ne faut pas le faire, hein, parce que sinon c'est grave, hein, naturellement. Mais je veux dire par là que... On a encore quelque chose, vous voyez, vous avez votre micro, vous avez votre téléphone, moi aussi j'ai match, voilà, on a tout, donc...
Mais à la fois c'est pas grand chose.
C'est vrai que c'est pas grand chose, face à des drames, face à la mort, parce qu'il y a un moment où quelqu'un va se poser la question, hein, se dire, bon, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai beaucoup de gens, hein, qui me demandent, mais qu'est-ce qui va se passer? Ben oui... Je ne suis pas encore passé, moi. Mais je suis plutôt dans la confiance totale. Je veux dire, je n'ai... D'abord, je n'ai aucune peur. Je n'ai pas peur. La peur, c'est de souffrir. Mais maintenant, il y a les soins palliatifs. Donc, je ne souffrirai pas trop, j'espère. Et puis, c'est vrai que j'entends les gens me dire « Mais je vais quitter ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. » Très bien. Ce que je comprends. Hein, c'est parti, mais je pense qu'il faut changer notre regard. Il faut regarder plus loin. C'est-à-dire là où on est attendu, là où nous sommes attendus. Et c'est vrai que c'est difficile.
Oui, je vais vous livrer un petit secret là, c'est complètement, ça me vient avec cette rencontre. Quand j'étais toute petite, il y avait des missels à la maison et je me souviens très tôt, vers 4 ans, d'avoir ouvert un missel et d'avoir vu cette image du Christ sur la croix. Et en fait, ça m'a terrorisée. Et la peur de ce livre, comment vous l'expliquez?
Alors, je vais vous raconter une petite parabole que vous ne trouverez pas dans l'Évangile. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un Martien, c'est pour ça que ce n'est pas dans l'Évangile. C'est un Martien qui arrive sur Terre. Et puis... Il voit dans les églises, effectivement, des croix, des Christs souffrants et tout. Et il rencontre 2 chrétiens. Alors le premier chrétien, il dit, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous avez un Christ comme ça, souffrant? C'est effrayant. Alors le premier lui dit, oh, mais vous, ne t'inquiète pas, c'est une vieille histoire de, il y a 2000 ans. Oh, ben, il n'a pas eu de chance, hein, c'était une mauvaise époque. Hein, parce que quand, s'il revenait aujourd'hui, il n'y aurait pas de problème, on l'accueillerait. Et le second chrétien lui dit, non, on recommencerait la même chose. Et le martien dit, mais alors vous êtes des monstres. Oui, nous sommes des monstres. Je pense que nous sommes effectivement des monstres. Le mal, il est dans le monde. Et c'est un combat qu'il faut mener chaque jour. C'est vrai que le Christ, en mourant sur la croix, nous a sauvés du péché de la mort, mais il nous invite à continuer le combat contre Satan. Regardez notre monde.
Nous sommes dévorés par le monde, c'est une petite référence à Bernanos.
Oui, on est dévoré par ce monde, si on ne prend pas la distance. Moi, je pense que les actualités dramatiques, que ce soit les guerres, que ce soit les enfants martyrisés, que ce soit... Je me dis, mais effectivement, on peut être écrasé par tout ça. Je veux dire, mais c'est effrayant, nous sommes capables de ça. À Auschwitz, quand on va à Auschwitz, on a été capable de faire des choses aussi atroces. Et d'ailleurs, quand vous visitez Auschwitz, j'y suis allé trois ou quatre fois, vous êtes pris par le silence. On n'a pas de mots pour parler. Se dire, mais l'homme qui est capable de faire le fronton de la Madeleine, si beau, le même, non pas le même, serait capable de tuer, de faire un génocide, de se débarrasser de l'humanité. Ça, c'est effrayant. Pour moi, c'est une question, mais il y a des grands artistes, hein, qui en sont bien meilleurs et bien pires. Mais c'est peut-être ça notre histoire. Nous sommes tiraillés.
Un peu comme Marie-Madeleine, qui vous accompagne.
Marie-Madeleine, elle m'accompagne parce que. Voilà, c'est la vie de tout un chacun. Quand elle ose se jeter aux pieds de Jésus pour demander pardon, c'est que cette vie qu'elle menait, une courtisane, hein, eh bien, j'allais dire, ça ne pouvait pas la combler. Il y a un moment, ça la comblait plus, en disant, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et donc, en se jetant aux pieds de Jésus, voilà, d'une femme délurée, c'est devenue une femme délivrée. C'est-à-dire que cette femme voyait bien qu'il n'y avait plus de sens de se donner dans ce port de Magdalena où elle se voyait, c'était une prostituée. Hein. Et donc, elle a trouvé la force de la miséricorde. Et de se dire, quand quelqu'un est habité par le mal, moi je vois des gens qui sont habités par le mal parce que. Ils vivent avec ça, ou ils l'entretiennent. Et de se dire, mais voilà, et si tu te jetais aux pieds de Jésus, ben ta vie prendra un nouveau sens. Et crois-moi que même si toi, tu vas pas oublier ton passé, parce que c'est toujours difficile d'oublier son passé, lui, en tout cas, c'est pas un chef comptable. Et donc, il n'y a pas de souci à avoir, il te rappellera pas quand tu arriveras en face. Ah oui, ton passé, il me souvient. Non, 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 non. Il dira tout ce qui est beau et grand.
Quel est votre rapport à la musique?
Moi, j'ai été élevé dans la musique, par la musique. Vous savez, j'étais dans un grand collège parisien, à Neuilly, Sainte-Croix de Neuilly, et très vite j'ai fait partie des petits chanteurs. Hein. Et donc j'ai été élevé avec le grégorien, parce que c'était surtout la liturgie, on était au service de la beauté de la liturgie. Donc j'ai baigné, et je pense que ma vocation sacerdotale, hein, elle a ses racines là. C'est-à-dire que c'est à travers la beauté, à travers les textes, que le Seigneur m'a appelé. Voilà, parce que la liturgie, ça doit être beau. Et c'est vrai, quand je voulais Quand j'étais petit, bon, bah, j'étais dans ma chambre et je disais la messe. Voilà, j'aimais bien dire la messe. Voilà. Et donc je me dis, quand je serai prêtre, si je suis prêtre, quand je serai prêtre, eh bien j'aimerais bien dire la messe. Et vous voyez, maintenant ça fait 45 ans passés que je dis la messe. Et c'est vrai que c'est toujours une joie. Non pas parce qu'on vit un spectacle, mais c'est une liturgie. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose, il faut penser aux gens qui voient. Il faut que, comme moi j'entre dans la liturgie, il faut que les fidèles entrent aussi dans la liturgie. C'est ça la participation active. Hein. Ce n'est pas de distribuer les feuilles, même si c'est important de distribuer les feuilles à l'accueil, parce qu'il faut accueillir, mais c'est surtout comment il va y avoir ce dialogue. Moi, je suis le prêtre, mais je représente le Christ, là. Je suis dépassé par ce qui se passe. Je porte celui qui me porte. Donc on est complètement dépassé. Hein. Quand je porte le corps du Christ, c'est lui qui me porte. Mais je le porte quand même. Et donc, il faut que les fidèles puissent entrer dans cette communion. D'ailleurs, on va communier. Mais avant même de recevoir le corps du Christ, il faut déjà qu'on participe à l'Eucharistie. C'est-à-dire que il faut soigner ses gestes, il faut soigner la parole, il faut soigner le chant. Il faut que ça soit beau, il faut que l'orgue ait la place pour voilà, habiter le lieu.
Et c'est ça la musicalité, c'est peut-être d'habiter et le lieu, avec le son du lieu, avec l'orgue. Comment vous sentez ces moments avec l'orgue? Est-ce que vous improvisez parfois?
Pour moi, c'est une plénitude. J'ai besoin de l'orgue. Je vois bien quand on disait dans le temps, on va dire une messe basse. C'est épouvantable, une messe basse. On dit la messe, quoi. Qu'elle soit basse ou haute, une grande messe. Toute messe est grande. Et donc, mais c'est vrai que quand l'orgue est là, et j'allais dire, ça sollicite d'abord l'oreille, naturellement, mais aussi le cœur. Les gens sont touchés par la musique. Hein. Et donc, ça, j'allais dire, on est ensemble, on est en communion, parce que moi aussi, j'essaye de toucher le cœur. Donc, entre l'orgue, il y a un dialogue entre l'orgue et moi. Et donc, ce dialogue fait que il y a une magie. C'est la magie du mystère, c'est la magie du divin.
C'est le citron sur le cœur qui...
Bah oui, qui peut... C'est une envolée. Une envolée, il y a des gens qui sont touchés. Je suis frappé, moi. Je suis au fond de l'église, après, pour saluer les gens. Les gens, je ne connais pas. Mais bon nom, puisque ce sont des provinciaux ou des étrangers qui sont à Paris, qui disent, tiens, on va à la Madeleine. Et donc, les gens me disent, merci pour la beauté. Merci pour la beauté. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein, mais c'est la beauté. Et elle touche d'autant plus que c'est simple. Voilà. Ce n'est pas baroque. C'est la simplicité. Voilà, le grégorien est là, nous aide. Et puis, on me dit toujours, est-ce qu'on comprend? Il n'y a pas besoin de comprendre. Kyrie, tout le monde comprend. Sanctus aussi, Agnus aussi. Donc, ce n'est pas ça. Je pense que ça fait... Ça intériorise. Vous savez, une belle liturgie, c'est quand on ressort de l'église avec une paix intérieure. Voilà. Ou un petit message, parce que parfois ils écoutent le curé, donc peut-être l'homélie peut toucher un mot, mais voilà, une paix intérieure. Voilà. Ça pour moi, c'est le rire. Mais j'ai été formé comme ça. Hein. Parce que mon maître de chant, hein, on commentait les textes avant pour savoir ce qu'on chantait. Il n'y avait pas que des notes. Hein. Le texte était aussi au service de la musique. Tous factus est prundo.
Christus factus est prundo. Oh.
venons d'écouter Christus Factus Est par les moines de l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes et également Monseigneur Chauvet qui nous invite à la paix intérieure. Cette paix, c'est ce que nous ressentons à l'intérieur de cette église. L'individu disparaît, le sacré demeure, une impression d'immatériel dressée au milieu d'un quartier clinquant, une architecture spirituelle. C'est ce qu'est la Madeleine, une absence de brutalité. L'histoire de l'église de la Madeleine est l'une des plus mouvementées de Paris. C'est un bâtiment qui a changé de visage et de fonction au gré des révolutions et des régimes politiques. Le roi Louis XV pose la première pierre d'une église destinée à remplacer une vieille chapelle devenue trop petite. Le plan initial prévoit une église classique avec un dôme. Les travaux s'arrêtent net à la Révolution française, alors que seules les colonnes commencent à sortir de terre. Napoléon Ier déteste le projet initial, il veut un monument à la gloire de sa grande armée, il ordonne de tout raser et de construire un temple grec sans croix ni clocher. Se dressent alors 52 colonnes corinthiennes. À la chute de Napoléon, on hésite, faut-il en faire une gare de chemin de fer, le projet a été sérieusement étudié, ou une bibliothèque. Finalement, Louis-Philippe décide d'en faire une église dédiée à la Sainte-Marie-Madeleine pour racheter les péchés de la Révolution et elle est officiellement consacrée en 1842. Cette église est désormais un haut lieu de la vie parisienne. On y célèbre de grandes funérailles, Chopin, Edith Piaf, Johnny Hallyday. Un intérieur sombre, majestueux, pas de clocher ni de fenêtre. Toute la lumière vient de trois coupoles, de dorures, du marbre et des orgues. Un mélange de la grande histoire de France, de culture et d'une liturgie très soignée. Et c'est devant que nous sommes maintenant avec Eric, le moment d'après l'entretien avec Monseigneur Chauvet, le moment avant d'entrer à l'intérieur. Un peu comme si Monseigneur nous guidait ce soir, il nous invite à entrer dans la Madeleine à la découverte de ces recoins secrets, là où vous n'êtes jamais allé, à l'intérieur du grand orgue, ce sera pour la semaine prochaine, et dans les couloirs qui mènent à l'orgue de chœur où nous allons maintenant, qui mènent à Michel Geoffroy, titulaire de l'orgue de chœur de la Madeleine.
Vous me disiez, vous m'en parliez en marchant de la Madeleine, Eric.
On est impressionnés, nous sommes impressionnés. Lorsque nous sortions de la rue de Suresnes, nous voyons l'ensemble de l'église. Et puis, on voit un tel équilibre que, sortant de la rue de Suresnes, on ne se rend pas compte de sa taille et de ses dimensions. Et là, nous sommes sur le bas des marches, face à ce magnifique fronton, à ce magnifique tympan, n'est-ce pas, admirablement refait, et pour lequel cet entretien nous a été un petit peu le thème de notre entretien avec Monseigneur Chauvet. Eh bien, regardez ces dimensions considérables de cette église de la Madeleine, ces piles gigantesques, ces piliers gigantesques, n'est-ce pas, qui inspirent beauté et solidité, n'est-ce pas. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire.
On ne la regarde plus de la même manière.
Et alors surtout qu'ils viennent d'être faits, c'est magnifique. Des travaux d'ailleurs vont se poursuivre puisque au mois d'avril, des échafaudages seront posés de l'autre côté, côté rue Tronchet, et ce sera le fronton côté rue Tronchet qui sera restauré. Il y aura pour 18 mois de travaux considérables par des artisans de très très grande qualité, tailleurs de pierre, des gens qui travaillent merveilleusement. On l'a vu ici à la Madeleine, on l'a vu à Notre-Dame. Et Monseigneur Chauvet peut bien en parler, puisqu'il a vécu cette période à la fois merveilleuse, mais à la fois terrible de Notre-Dame, n'est-ce pas ? C'est tout de même impressionnant. Et alors, vous avez ces galeries, n'est-ce pas ? Où tout est gigantesque et à la fois c'est gigantesque mais on ne se sent pas écrasé. C'est ça ce mystère de cette église de la Madeleine. Sainte Marie-Madeleine qui habite ce haut lieu, n'est-ce pas ? Tous ces lieux, vous avez... On le ressent d'ailleurs un petit peu identiquement quand nous sommes à Vézelay.
Absolument.
Cette basilique magnifique, cette butte de Vézelay absolument extraordinaire. Quand nous sommes à la Sainte-Baume également, voilà, c'est ces lieux habités par Sainte-Marie-Madeleine, qui qui est morte en France d'ailleurs, Sainte Madeleine. Et oui, elle est arrivée en Gaule, n'est-ce pas, à l'époque. Voilà, donc nous sommes quand même un pays privilégié par la foi. Et je repense à... En même temps, c'est bien parce que regardez ces travaux qui ont été faits, qui ont fait ce grand dégagement d'espace devant, qui permettent notamment de pouvoir admirer cette merveilleuse façade face à l'Assemblée nationale et à la place de la Concorde. Voilà. Et oui, Sainte-Madeleine nous rappelle beaucoup de choses. Qu'elle éclaire, n'est-ce pas, nos députés qui sont travaillent pour la France, bien sûr, mais ils ont bien besoin. Sainte-Marie-Madeleine les éclaire. Entre, il y a la place de la Concorde, qui est une des plus belles places de Paris, mais aussi une des places chargées d'histoire plus ou moins belle.
Ouais, c'est très beau.
Et cette fameuse porte, on en parlait avec François-Henri Houbart.
On va s'approcher.
Oui, on va s'approcher de la porte de bronze. Eh bien, c'est une porte absolument monumentale en bronze qui est actionnée tous les jours pour ouvrir et fermer cette église. Eh bien, elle pèse plusieurs tonnes, hein. Elle pèse plusieurs tonnes, ces portes, merveilleusement sculptées. Eh bien, elles sont plus grandes que la porte de la basilique Saint-Pierre de Rome.
Non.
Eh oui, elle est plus haute, donc elle est plus lourde, mais à peu près les mêmes dimensions de la porte de la basilique Saint-Pierre de Rome. Regardez ça un petit peu, ces détails, c'est magnifique. Le bronze. nous empruntons les passages secrets de la Madeleine. Madame.
Bonjour.
Ah,
c'est les clés de l'orgue. Non, c'est les clés du sacristan.
Ah, d'accord.
C'est clair. Je
assez particulière. C'est une église médiévale qui a été trop petite à un moment donné avec l'extension de l'urbanisation. Elle a été reconstruite au 17e et puis au 18e, donc, au 18e siècle. Il y a eu un grand chantier. La première pierre a été posée par Louis XV, je crois, en 1763. Et donc les travaux sont arrêtés pendant la Révolution. Napoléon a souhaité en faire un temple à la gloire de la Grande Armée. Les travaux se sont de nouveau arrêtés, ils ont été repris et l'église a finalement été consacrée à l'époque de Louis-Philippe en 46 ou 48, je ne sais plus. Voilà. Et il y a une chose très curieuse et très intéressante à voir dans le...
On suit Michel. On passe une porte. On descend un escalier. C'est un couloir interminable, c'est magnifique.
C'est un plan de 1807 qui superpose Notre-Dame de Paris et la Madeleine. La Madeleine est en noir, Notre-Dame de Paris est grisée. Et c'était destiné à des architectes ou des organisateurs, des ordonnateurs d'événements pour savoir quelle serait la meilleure réalisation pour permettre à l'empereur d'être vu le plus possible en déambulant le moins possible en quelque sorte. Et donc il y a toute une colonnade à l'intérieur de laquelle il est possible de déambuler évidemment et d'être vu partout autour. On voit bien la Madeleine, ses colonnes, et on voit bien Notre-Dame de Paris, sa complexité interne. Et effectivement, autour de Notre-Dame de Paris, il n'y a pas de protection, il n'y a rien. Et que là, les colonnes font une espèce de protection, c'est en hauteur. L'empereur aurait pu tourner, même être à cheval, il avait été plus ou moins prévu qu'il fasse un tour devant la foule, l'acclamant, etc. Voilà.
Ici, nous sommes à l'extérieur.
Nous sommes à l'extérieur. Voilà. Et là, c'est l'intérieur, les murs, c'est l'extérieur. Voilà. Et c'est une église donc, qui n'a pas de... Ça n'a jamais abouti. Il n'y a pas eu de défilé de l'empereur à cet endroit-là. Mais ça montre bien que c'est une église qui est un peu une espèce de scène de représentation plus que...
D'accord.
Voilà. Sa fonction architecturale était... plus représentatif que liturgique, en quelque sorte.
Oui.
C'est assez mystérieux. Voilà.
C'est la paroisse de l'Élysée.
C'est la paroisse de l'Élysée, oui.
Et de l'ambassade Grande-Bretagne.
Et de l'ambassade d'États-Unis.
Et des États-Unis.
Longtemps, l'ambassadeur des États-Unis venait à la première messe le dimanche matin, quand il y avait plusieurs messes. Voilà. Il venait en toute discrétion. Mais ça fait bien longtemps. Voilà.
le président qui venait régulièrement, c'était Valéry Giscard d'Estaing.
Oui.
Assez régulièrement.
Oui, paraît-il. Je n'étais pas encore là.
Et les successeurs, on les a peu vus.
Oui. Ben, j'ai vu...
Peut-être Madame Chirac.
On est dans le noir, on rallume la lumière.
Non, les successeurs, on les a vus une fois. Tous ensemble, lors des obsèques de Johnny Hallyday, je crois que c'était 2017.
Oui, c'est ça.
Voilà. Avec beaucoup de premiers ministres, d'anciens, d'actuels, etc.
Ça vous fait rire? Ça vous amuse?
Oui, parce que c'était de la politique spectacle ou du spectacle politique. On ne sait plus vraiment choisir ou déterminer lequel est l'un ou l'autre.
Absolument. Et donc on peut parler aussi de religion spectacle avec la Madeleine ou...
Mais son architecture s'y prête un peu, mais cela dépend souvent du célébrant, quoi, de son charisme propre. Quoi. Voilà. Et là, nous avons actuellement la chance d'avoir Mgr Chauvet, qui est le curé de la Madeleine et dont les célébrations sont extrêmement recueillies. Et non, mais ce n'est pas de la liturgie spectacle, là. Même si une part musicale est assez importante et même un peu parfois théâtrale par le répertoire qui est choisi, mais ce n'est pas de la liturgie spectacle. C'est assez profond.
Le monseigneur Chauvet est très musicien, était chanteur.
On va passer par là.
On repasse, on franchit la même porte.
Oui, bien sûr.
Oui, je bouge pas là. Pardon.
Sous-Marie-Madeleine.
Le chantier a duré donc très longtemps, de 63 à 48. Et on a une fresque tout en haut où l'on voit Napoléon de dos. Et on voit beaucoup de princes et de rois, des figures de la chrétienté. On voit Jeanne d'Arc de dos, surtout si on est un peu plus loin, Saint-Louis, etc. On voit un mort qui est couché, mort sur le ventre. Et voilà, plus les personnages bibliques et le Christ en majesté, bien sûr, tout en haut.
Vous la regardez souvent ?
Quand on arrive par la nef, oui, systématiquement.
Et puis
quand
vous êtes assis à votre orgue aussi, c'est votre orgue.
Ce qui en fait un instrument tout à fait pratique pour accompagner les chœurs et les solistes, puisqu'on peut être à côté d'eux, les entendre respirer et vraiment les accompagner de manière très confortable.
Les entendre respirer, vous pouvez nous expliquer ?
Mais quand un chanteur chante, comme quand nous parlons, il respire et on le voit, on le sent, etc. On n'est pas à le regarder à travers un écran alors qu'il est très loin et on essaie de deviner quand ça va partir le son. Non, là on le sent tout de suite, on est très proche et donc ça permet comme un...
Cet orgue est magnifique d'ailleurs, cet orgue de chœur. Ça pourrait être un grand orgue dans beaucoup d'églises.
Au départ, c'était un instrument très, très limité. La console donc, était sous le buffet. Il date, je crois, de 1842, la première construction. Et à l'époque, il était très réduit, il n'y avait que 5 jeux. C'est-à-dire 5 jeux, 5 sons différents. Et malgré cela, il y a eu pas mal de répertoires écrits ici par des compositeurs célèbres de l'époque, comme Théodore Dubois, par exemple. Et l'instrument étant limité, souvent dans la partie d'orgue était rajoutée une partie de contrebasse à cordes. Donc il y avait un contrebassiste attitré qui venait faire une basse que l'orgue ne pouvait pas jouer à l'époque. Voilà. Il a été agrandi peu à peu jusqu'à les années 1980. Et là, il peut être encore un peu agrandi. Il y a des jeux toujours en attente, mais il est déjà très complet tel qu'il est.
Michel Geoffroy, vous êtes la Madeleine depuis combien d'années ?
Depuis 25 ans, je suis rentré en 2001 sur concours, donc il y avait un concours à l'époque. Et depuis, je n'ai pas quitté la paroisse.
C'est comme une maison ici ?
Un peu, oui. Un peu, voilà. Alors, l'organisation est... Alors, quand je suis arrivé, il y avait à l'époque 6 offices le week-end. Il n'y en a plus que 3. Nous sommes passés même à un office au moment de à la fin de la crise du Covid. Donc, ça s'est beaucoup. Enfin, les offices ont beaucoup diminué. Le nombre d'offices a beaucoup diminué. À l'époque, quand je suis rentré, il y avait encore un maître de chapelle à pointer comme tel et un chœur professionnel. Donc les coûts de la paroisse étant assez considérables, les différents curés avaient décidé de réduire la voilure. Si on peut dire, le maître de chapelle est parti, je l'ai remplacé. Je n'avais plus que 4 chanteurs professionnels auxquels on pouvait adjoindre d'autres chanteurs pour les offices plus importants. Mais tous les dimanches, il y avait un répertoire de musique sacrée chantée, un kyrielle polyphonique. Kyrie, Sanctus et Agnus. Le Gloria et le Credo étaient toujours chantés en grégorien. Et un motet à la communion. Et les grandes orgues, elles, interprétaient des pièces pour l'entrée, en prélude à l'office et à la sortie, ainsi qu'en post-communion. Voilà. Donc c'était très riche à l'époque. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus de chœur, malheureusement. Donc il n'y a plus que les instruments. Malgré ça, c'est quand même une des rares paroisses où on a la possibilité de jouer du répertoire. Et le répertoire est même inscrit sur la feuille de messe, ce qui n'est pas souvent le cas dans Paris. Voilà. Et malheureusement, il n'y a plus de chœur régulier et il n'y a plus donc de polyphonie pour la grand-messe.
C'est vous qui choisissez le répertoire ?
Mais lorsque je me suis occupé de l'ensemble vocal, oui, je choisissais tout le répertoire en alternant le plus possible les époques, si l'on peut dire. Le répertoire qui convient le mieux ici, c'est celui de 1880-1920 à peu près, quoi, pour le sur le plan vocal, voilà.
Pourquoi ?
C'est une époque où la voix était assez mise en avant, et comme l'ensemble vocal était composé de chanteurs professionnels très peu nombreux, il fallait que ce soit des pièces où la portée vocale soit importante, soit vraiment, comment dire, soit à même de faire sortir le chanteur, de faire sortir sa voix, et non pas qu'il soit en retrait derrière une masse de chanteurs, ce qui n'était malheureusement pas le cas, puisqu'on avait que 4 chanteurs, ou 8 chanteurs, ou 12 parfois, mais très rarement. Voilà.
Vous donc, pourriez nous citer des pièces ?
Oui, alors le plus emblématique de l'époque, c'est évidemment Théodore Dubois, qui était un grand théoricien, qui est resté dans l'histoire de la musique française comme un grand pédagogue. Il a écrit des volumes sur l'orchestration, surtout sur l'harmonie. Des volumes qui passent pour être un peu désuets, mais qui rendent très bien compte de l'exigence musicale de l'époque. Et ce qu'il écrivait était très convenu, entre guillemets, une musique très conventionnelle, mais très efficace. Voilà. Alors, il y a bien sûr d'autres compositeurs, moins abordables sur le plan vocal, plus techniques. Bien sûr, il y a eu Camille Saint-Saëns, alors lui, un compositeur capable d'extérioriser la voix, les sons de manière assez même tonitruante parfois, mais assez difficile à faire chanter rapidement par quelques chanteurs qui ne sont pas toujours des bons lecteurs, etc. Alors il y a d'autres compositeurs que j'ai trouvé, des compositeurs anglais bien sûr, pour qui les contraintes du répertoire liturgique sont bien maîtrisés. Là, je n'ai pas spécialement des noms. Il y avait et puis tout le répertoire est monté au troisième étage.
Thank you.
Nous venons d'écouter Eric de Radio Courtoisie et Michel Geoffroy, titulaire de l'orgue de chœur de la Madeleine, Anton Bruckner pour Christus Factus Est, interprété par le chœur Monteverdi, dirigé par John Elliott Gardiner, et des œuvres de Théodore Dubois, Au Salutaris pour soprano, solo et chœur, et Médiation, prière pour violon, orgue et harpe, opus 17, interprété par les chantres musiciens. Dans un instant, la suite de votre soirée musicale dédiée à la Madeleine avec Michel Geoffroy à l'orgue de chœur.